Les 40 ans du Murano Continental avec Pierre Chaudoir et Olivier Gossery. Quand la pop culture rencontre l'histoire. Avec aujourd'hui Éric Pirotte, dit Éric de Liège.
Ah ben Éric, bonjour.
Bonjour.
Un parcours étonnant, donc que personnellement je découvre et que je ne connaissais pas. Et donc de se dire qu'à un moment, celui qui hante malheureusement toutes nos interviews, malheureusement parce qu'il n'est plus là, c'est Jean-Claude Maury évidemment.
Ouais.
Et donc tu es un peu à côté de lui, tu débarques au Murano, comment ?
Tout à fait. Mais en fait, c'est Brigitte Gillet. Donc on habitait à Liège tous les deux à l'époque. Ouais. Et elle sortait au Murano. Et moi, je fréquentais un bar dans lequel elle travaillait comme serveuse. Et donc on a lié connaissance. Et dans ce bar, de temps en temps, je mettais la musique comme des jockeys, quoi. Et donc c'est elle qui m'a dit, écoute, viens avec moi au Murano, ça devrait te plaire. Et donc je l'ai accompagnée, et donc de fil en aiguille, tous les week-ends, on allait passer les soirées.
T'es tombé dans le pot,
vas-y Olivier. Oui,
alors d'abord, ce qui est mignon, comme tu l'as remarqué, c'est qu'il a beau être émigré depuis...
L'accent
est resté, ouais, ça c'est mignon.
Très bien.
Deuxièmement, tu as entendu ce jingle, Eric. Pense... Sans me vanter, j'ai bien choisi, je pense.
Oui, tout à fait, ça correspond bien.
Ça correspond à, si on devait résumer Jean-Claude dans un seul morceau. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la musique de Jean-Claude que tu découvres en 81, 82? D'abord, on va revenir un peu en arrière. Tu sortais déjà dans une discothèque liégeoise qui s'appelait La Chapelle, où c'était?
Oui, c'est ça. Bernard Dobelair qui mettait la musique.
Bernard Dobelair.
Donc, ouais. Moi, j'ai appris à mixer en regardant Bernard, en fait, travailler. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais toujours à côté de la cabine. Et donc, je me suis lié d'amitié aussi avec Bernard. En fait, c'est la même chose.
Oui, c'était aussi une boîte qui n'était pas une boîte, c'est une espèce de salle de spectacle à l'arrière du carré. Moi, j'aimais beaucoup cet endroit.
Oui, c'était le rez-de-chaussée d'un parking transformé en discothèque.
Exactement.
Donc, c'était très bas de plafond. Très sombre, mais la musique était vraiment bien. Bernard, c'est quelqu'un.
Voilà, je me souvenais pas que c'était Bernard Dobelair. Bravo, merci.
Qu'est-ce qui fait, alors, excuse-moi, là je fais une parenthèse que je me suis toujours posée, j'improvise. Hein. Qu'est-ce qui fait que Liège n'a plus jamais connu une discothèque aussi branchée par la suite ? J'en ai connu des discothèques à Liège, mais je ne pense pas qu'on ait retrouvé cette magie justement de la chapelle. Comment tu peux expliquer, toi, en tant que liégeois, ce phénomène?
Je pense que ça tient au patron et à l'équipe, en fait, qui était très ouverte d'esprit.
C'est l'époque qui a voulu ça, tu penses?
Je pense aussi, oui, parce que c'est quelque chose qui ne serait plus possible aujourd'hui, même à Bruxelles, je veux dire. Maintenant, la musique dans les discothèques, c'est très monothématique. C'est 140 beats minutes du début à la fin, quoi.
Ouais.
Donc, à l'époque, donc pour revenir à ta question précédente, qu'est-ce qui m'a plu dans la musique de Jean-Claude, c'est justement l'ouverture d'esprit et l'éventail de musique qui passait. Moi, j'étais surpris d'entendre qu'on pouvait autant passer de genres différents. Et ça changeait tout le temps, en fait.
Est-ce que tu as retrouvé des points communs dans la sélection de Bernard et dans celle de Jean-Claude ? Est-ce qu'il y avait des atomes ?
Oui, il y avait des atomes, c'est ça. Mais Jean-Claude avait une ouverture nettement plus large.
Encore ?
Ah oui, beaucoup plus large.
Parce qu'il pouvait se le permettre ?
Oui, c'est ça. Il pouvait passer des trucs complètement incongrus, comme Imasumak, Mange des tomates, et des trucs très pointus, Killing Joke, Alien Sex Fiend, des choses comme ça. Et donc, quand tu entends tout ça dans la même soirée, tu te dis, waouh, quand même, quelle culture musicale il a. Hein.
Ouais.
Je veux dire, parce qu'il avait quand même une fameuse culture musicale. Et il avait la façon d'enchaîner les choses qui était très surprenante.
Okay. Donc toi, jeune DJ, tu absorbes tout ça, t'es l'une
éponge. Oui, c'est ça, tout à fait.
Okay.
Donc, moi, je faisais comme j'ai fait avec Bernard, en fait, moi, parce que moi, c'est la musique qui m'intéresse. Donc je dansais, puis je passais du temps à côté de la cabine. Puis au fur et à mesure, on discute et puis on voilà. Comme ça, et d'amitié.
C'est même plus que de l'amitié. Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un espèce de rapport familial. C'est devenu comme ta famille, Jean-Claude, non ?
Oui, c'est ça. Mais ça a pris facilement deux ans avant que j'entre dans la cabine.
Ouais.
Si tu veux, pendant deux ans.
Entrer dans la cabine, c'est mignon.
Ouais.
C'est
exact.
C'est ça, parce que c'est un îlot assez fermé.
Ouais,
en fait.
Il a fallu que la glace fonde doucement, mais sûrement.
Oui, c'est ça. Donc ça s'est fait vraiment progressivement et naturellement.
Ça devient comme un grand frère, presque comme un papa pour toi, non ?
Presque comme un père, puisqu'il devait avoir facilement 10-15 ans plus que moi.
Eric, il y avait aussi un duo, il y avait aussi, ce qu'il y a moins maintenant, quelqu'un qui s'occupait de la musique aussi, qui s'adaptait un peu à la musique, la lumière, pardon. Tu vois ?
Oui, ça,
donc c'était quelqu'un, c'est aussi des jongleurs. Hein. Donc c'est des mecs qui devaient s'adapter à la musique, sachant pas trop bien ce qui allait arriver, on fonctionnait. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. On avait des codes, hein,
ouais.
On faisait des signes.
Voilà, donc, mais c'était la surprise.
À un moment, je pense qu'on avait aussi une... Je pense qu'à un moment, on avait un système avec un casque. Et ça.
C'est gentil, Pierre, c'est bien de rappeler qu'il y avait aussi des light jockeys. Est-ce que tu te souviens du prénom du light jockey quand tu travaillais?
Oui, c'est ça. C'est Yves, okay. Yves Classe ou un truc comme ça, je pense.
On va rappeler qu'Eric prend le relais de Jean-Claude en 86. Il restera au Mirrenault pendant un an et demi jusqu'en 87. Je lui rendais hommage récemment dans un groupe Facebook, dans le groupe Mirrenault, où je disais « Eric, tu fais partie de ceux qui m'ont appris le métier. » Parce que moi, c'est l'âge où je commence à sortir au Mirrenault, j'ai 16-17 ans, et j'écoute Eric très attentivement. C'est l'époque Prince, Sign of the Times, c'est l'époque Beastie Boys, le premier album, La Sons to Heal, le truc cultissime. Et je m'inspire beaucoup d'Eric parce que je découvre énormément de choses, même si j'ai connu Jean-Claude plus brièvement. Eric est vraiment pour moi un mentor. Donc voilà, on continue l'histoire.
Oui, c'est ça, parce que quand tu dis en 86, moi j'ai le souvenir que je mets la musique depuis 84 déjà, en duo avec Jean-Claude.
C'est ça.
On était là tous les deux ensemble.
Donc il faisait du playback, Jean-Claude, c'est ça que tu nous dis.
Non,
en duettiste, en back-to-back.
En duettiste, voilà.
Et quand est-ce que tu te sentis en disant je lâche les mains et je suis tout seul?
Non, c'est, en fait, moi j'étais très bien dans cette formule-là. Oui. C'est juste qu'au fur et à mesure, Jean-Claude il est de plus en plus pris par le studio et donc il me délègue. Je veux dire, d'abord, le choix des disques, il me dit, tu vas là et là.
La confiance.
C'est ça. Donc, tu vas chez USM Port, tu vas chez Caroline, et blablabla. On a des comptes, tu fais le choix. Et donc, ça s'est fait vraiment progressivement, comme ça.
Ouais. C'est ton plus grand choc émotionnel quand tu dis les platines, c'est quoi? Il y a un moment, tu dis, waouh, là, je pousse le son et là, waouh, c'est un moment de grâce, c'est quoi? Il y a un moment, tu te souviens?
Oui, c'est quand c'est le tout début de la house music avec les Chicago Tracks en fait. Mm-hmm. Ça c'est vraiment le truc.
C'est une claque que j'ai prise aussi. J'ai une image très précise d'Eric, col roulé noir, veste en jeans foncé, cheveux longs ondulés. Il mixait la tête en arrière, les yeux mi-clos, en chiquant systématiquement. Tu avais toujours un chewing-gum en bouche, parce que tu fumais pas, je crois.
Non.
Et tu mets, par contre, tu avais toujours ce chewing-gum, et alors tu mixais comme ça.
Les yeux à moitié fermés, en effet.
Ouais. Et je te vois, mais encore comme si c'était hier. J'ai vraiment ce souvenir précis. Donc, l'histoire est belle. Ce qu'on ne dit pas, mais on va le dire quand même, c'est qu'il y a un geste que moi je trouve très beau de la part de Jean-Claude, c'est que même s'il n'était pas obligé, tu n'étais pas encore engagé officiellement, à chaque fin de soirée, il te sort quelques billets de son enveloppe, il te paye.
Oui, ça s'est fait. Ouais.
Parce qu'il estime que tout travail mérite salaire et que tu l'as aidé dans son travail, donc il commence à te payer sur son cachet.
Oui, c'est ça.
Et alors, à ce moment-là, tu débarques à Bruxelles et tu viens t'installer chez nous.
C'est ça. Donc, j'ai loué un studio rue Aubert, la Grand Place, donc c'était vraiment tout près des disquaires. Donc,
Ça va, j'ai bien étudié mon dossier.
Oui, tu connais bien l'histoire.
Malheureusement, ça ne se termine pas super bien. Il y a des problèmes de voisinage, raconte-nous ça.
Oui, donc il y avait énormément de problèmes de voisinage, de bruit,
des nuisances.
Des nuisances sonores. Et donc il fallait limiter le volume sonore. Et donc en début de soirée, Paul était là avec son sonomètre. Et à 80 dB, il mettait un scotch sur le volume de la table de mixage. Je veux dire, la mesure est prise quand la salle est vide. Mais une fois que tu mets 500 personnes, les 80 dB, tu n'entends strictement plus rien. Mmh. Et donc les gens venaient me dire, mais plus fort, on n'entend rien. Puis à un moment ou l'autre, j'arrachais le scotch et je mettais plus fort. Ça arrive une fois, deux fois, trois fois, et puis bon...
Je vais le défendre, je me souviens de cette époque, c'était horrible. On arrivait au Mirrenault, c'était feutré. Et puis ça démarrait jamais, quoi, parce qu'il n'y avait pas ce kick. Ouais. Et on partait vers 3h du matin, parce qu'on se disait, on va aller voir ailleurs, parce que ça ne pêche pas, quoi. On n'en avait pas pour notre argent. Et donc à un moment donné, tu pètes un câble, tu retires les tapes.
Oui, alors ça arrive une fois, deux fois, trois fois, mais Paul commence à la trouver mauvaise. Quand même, il me dit, écoute, là, ça suffit, quoi.
Ouais.
Quel regard as-tu sur les nouveaux disjockeys? On pense à un phénomène de Tomorrowland.
Moi, j'aimerais bien faire leur place. Hein.
C'est vrai, mais j'allais te poser la question. Je dis à maman.
Oui, ça m'aurait bien plu, bien sûr.
Tu as encore des contacts comme ça avec d'anciens disjockeys de ton époque? Il y a peu de relations.
Non, c'est vraiment. Non, moi, à un moment, j'ai quitté vraiment le monde de la nuit. Et
qu'est-ce que tu as gardé physiquement de cette époque-là? Rien, des disques, des photos?
J'ai encore quelques disques, mais ils sont dans la cave. Maintenant, tout est numérique, de toute façon.
Une musique, tu l'as parlé tout à l'heure, mais plutôt une personne. Qu'est-ce qui t'a dit, roi?
Jean-Claude.
Si d'un coup de baguette magique, tu pouvais faire revenir quelqu'un qui nous a quittés.
Oui, parce que c'est une très belle personne aussi. Ouais. Je veux dire, voilà.
Ton plus beau souvenir de ce côté, il t'ouvre la porte, il donne les manettes, il t'apprend.
Quand on travaillait et qu'il y avait vraiment de l'ambiance et que c'était bien lancé, en fait, on parlait très peu, on se regardait. Et on savait ce que l'autre allait mettre.
Vous compreniez du regard.
Incroyable. Et c'était vraiment très, très étrange comme relation. Finalement, quand on bossait, on ne parlait presque pas. On se regardait et on savait ce qu'il fallait mettre.
Vous auriez pu parler,
oui,
lui le français et toi l'espagnol sans...
Oui, tout à fait.
Un feeling.
Oui, c'est vraiment le feeling.
Une complicité,
Cet accord dans la musique, si tu veux.
Petite fight avec Paul Steck qui est résolu depuis, donc oui, tu viendras, oui, j'imagine, oui, à l'expo.
Tout à fait.
Avec plaisir
Oui, bien sûr. Moi, c'est une époque où j'avais complètement tourné la page, et donc finalement, ça évoque de très bons souvenirs. Moi, c'est une très belle époque, hein, je veux dire, moi, j'ai pas de regrets.
Génial. Eric, on te retrouvera derrière les platines au Hall Saint-Géry durant l'exposition
avec
des
plaisir,
40 ans. Est-ce que tu peux nous dire la date à laquelle tu viendras te...
Le 2 juillet.
Voilà,
le vendredi 2 juillet.
Vendredi 2 juillet, Eric Pirotte, derrière les platines au Hall Saint-Géry. Ça se passe de 19h à 23h, comme ça tu le sais. Et aussi, on a créé un compte Spotify Mirano qui est divisé en plusieurs périodes, dont la période d'Eric, où on peut retrouver la playlist d'Eric de l'époque. Elle est extraordinaire, elle a beaucoup de succès. Je te le dis, voilà, en passant.
Oui, elle est assez représentative.
Voilà.
Okay. Et tu n'as plus mixé depuis combien de temps?
Ben, peut-être un an ou deux après avoir quitté le Mirano. Ça fait au moins 30 ans, quoi.
Ouais, ça fait, c'est comme le vélo.
Oui, c'est ça, mais ça ne s'oublie pas.
Non, très bien. Bah, écoute, on est impatients, en tous les cas, ça nous fait plaisir
aussi,
de nous voir.
Aussi.
Et on voilà, c'est content de revoir des vieux tromblons. Moi, c'est une époque dont je ne me souviens pas, mais c'est très bien. Donc voilà, c'est très bien de se souvenir de ce qui a fait de Bruxelles un grand monument de la nuit. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Eric, et on se verra le 2 juillet.
Alors, avec plaisir.
Merci, Eric.